Salut Charline.
Alors aujourd'hui, on reçoit Lolita Séchant.
Ah, Lolita Séchant, c'est la...
C'est l'auteur de BD.
Oui, oui, non, je sais, mais c'est surtout...
Bah,
la...
c'est l'auteur de BD.
Oui, mais tu viens de le dire, Alex, il veut dire autre chose, là.
Et oui, donc ouais. C'est l'auteur de BD, mais c'est aussi la...
La dessinatrice de la BD.
Mais
c'est
enfin...
quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc.
Mais pourquoi, hein, tu laisses pas Alex finir sa phrase?
Bah, parce que je sais très bien ce qu'il pense dire, voilà.
Ah bah, alors,
Oui, bah donc, je voudrais vous mettre au défi de faire l'émission entière... Sans le citer.
Voilà. Ok.
Mais attends, citer qui? Je comprends rien là.
Ah bah, il y a un prénom que je vous mets au défi de ne pas dire pendant l'émission.
Mais lequel?
Lui dis pas surtout, il y a moins de risques.
Mais bon, elle a raison. Il y a pas plein de sujets.
Moi, je propose le ralliement de Jadot.
Ah bah oui, elle est écolo, c'est parfait.
Ah oui, puis c'est intéressant parce que dans sa famille, il y a un fioniste par intermittence.
Ah bon?
Attention, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, mais... j'ai pas dit son nom.
Ouais, ouais, c'était à deux doigts.
Mais attends, c'est quoi? C'est la sœur d'Eric Ciotti, c'est ça?
Hein, mais pourquoi tu dis ça?
Bah parce que t'as dit qu'elle était de la famille d'un fioniste par intermittence.
Ah mais on s'en fiche, elle vient pour une BD.
D'accord. Et elle parle de quoi sa BD?
Héritage familial.
Ah, bah alors, excuse-moi, mais on peut savoir.
Mais on s'en fiche, enfin tout le monde a une famille, bon sang.
Sauf Rémi, sans famille.
Oui, et Xavier Dupont de Ligonnès, bah, enfin lui, c'est de sa faute.
Oui, oui, alors, sujet suivant.
Alors, il y a un sujet sur l'éducation.
Ah, bah c'est intéressant parce qu'elle a fait Montessori alors.
Ah, bah oui, mais excusez-moi, mais la chanson C'est quand qu'on va où? Eh bah ça parle de l'éducation.
Et pourquoi tu parles d'une chanson d'un coup?
Pour rien, parce qu'on a dit qu'on faisait toute l'émission sans le mentionner.
Ah, alors, ça y est, je sais. C'est bon, c'est bon.
Tu sais quoi?
C'est bon, c'est la fille d'un chanteur, c'est ça? Ah, bah oui, d'accord, bah effectivement, je comprends qu'on lui en parle pas, c'est gênant.
Merci.
Oh là là, ça doit pas être simple. Hein.
Ah, non. Mais pourquoi?
Oh bah, d'être la fille de Didier Barbelivien.
Bonjour la France Inter, bonjour la France de Didier Barbelivien. Vous écoutez l'émission qui prend quelques libertés avec l'actualité et voici les trois informations qui vont briser leur chaîne jusqu'à 18h. 40 ans qu'on n'avait plus vu ça. Aucun candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot s'est rangé derrière Benoît Hamon.
Je m'en vais comme un prince.
La société civile veut prendre part à l'élaboration des programmes scolaires. Ça signifie que les associations et les syndicats, y compris la CGT et le MEDEF, pourraient être représentés dans le comité qui élabore les programmes. Alors nous, on attend le chapitre sur le darwinisme social.
Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations.
Un Français sur trois ne mange pas à table. C'est pourtant pas ce qu'on leur a appris. Encore une tradition qui fout le camp. Est-ce qu'on va finir par manger debout comme les Américains?
Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage.
Je suis accompagnée de celui qui n'a même pas le temps de manger et c'est paradoxal vu le nombre de plateaux télé qu'il prépare. C'est Alex Vizorek.
Ça a bossé. Oh, j'aime bien. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Oh.
Bonjour.
C'est bien fait de venir tôt ce matin. Et aujourd'hui...
On se demandait ce qu'elle faisait toute la journée. À un moment donné, elle a fait « Ouais, j'ai, c'est mon lancement. »
Impressionnant. 17h20, celui que la France va bientôt retrouver tous les jours après le 20h avec son camarade Madénian suite à l'arrêt d'Actuality. Donc quand une émission dont il fait partie coule, on lui donne une promotion. Il reste plus qu'à couler celle-ci avec l'actualité, Thomas VDB.
Exactement. Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Eh bien, j'ai appris, et je suis désolé de vous l'annoncer, qu'il y a une comédie musicale sur Jésus qui va sortir. Oui. Donc je me suis dit, tiens, Actualizic.
Bien sûr. 17h30, celui qui est payé pour faire dire des conneries aux Français. Vous dire si c'est le plus gros emploi fictif de la fonction
c'est
publique,
vrai.
C'est vous Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai sondé l'opinion publique sur la baisse du nombre de fonctionnaires suite à la proposition de Macron d'en supprimer 120 000. Est-ce que cette dame par exemple va écouter ma chronique?
Je fais les boutiques à 17h30, je peux pas vous écouter. Je dépense tout l'argent que j'ai gagné pour ne pas le donner aux socialistes. Je peux pas le blairer.
Voilà, c'est dommage, elle peut pas blairer les socialistes. Voilà, c'est dommage. Ça vous est un point commun, quasiment.
Et 17h40, celle qui, si elle devait être réincarnée en un objet, hésiterait soit entre un marque-page ou une paille à cocktail. Bonjour Juliette Arnaud.
Je ne bois jamais d'alcool mélangé.
Avec un marque-page.
Avec un marque-page.
De quoi on parle?
Je voulais aller au bout du monde et puis comme je suis une grosse feignasse, j'ai lu un livre.
Très bien. Et 17h55, c'est vendredi. Celui qui viendra mettre des notes sur ce qui dénote, c'est Frédéric Fromet.
Oh, il y a un niveau aujourd'hui. Là.
Voici celle
les
qui
amis
a...
du jeu de mots se régalent.
Oh là là.
Celle qui a tout annulé pour nous. Vous faites des études de lettres à Montréal, durant lesquelles vous publiez déjà un premier roman. Vous êtes l'auteur de livres pour enfants, puis vous vous lancez dans le dessin et le scénario de bande dessinée. Vous publiez Les Brumes de Sapa, vous êtes la Lola de la chanson Morgane de toi de Didier Barbelivien, donc vous êtes, je vous laisse te dire, vous êtes...
Lolita Séchant.
Oui, oui.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout.
Bonjour Lolita.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Vous avez à peu près 22 ans quand vous partez sur un coup de tête, c'est ça ?
C'est ça.
À destination le Vietnam. Vous partez loin, seul, pour vous trouver comme pas mal de jeunes finalement. Sauf que vous, vous y retournez chaque année. Parce qu'à la fin de votre premier voyage, vous avez noué un lien avec une petite fille d'une minorité oppressée de là-bas qui s'appelle Lotigom.
Lotigom,
voilà. Vous êtes partie parce que vous dites que vous ne saviez pas quoi faire de votre vie comme souvent quand on a 20 ans, c'est vrai. Puis votre dessin est vraiment superbe, alors que vous dites que vous ne saviez même pas que vous saviez dessiner. Donc là, vous vous foutez de notre gueule déjà, carrément.
Je n'oserais pas, après tout ce que vous avez dit en introduction. Non, je ne savais pas dessiner spécialement.
C'est vrai, j'aimais ça, mais gamin, c'est la première chose qu'on fait, c'est dessiner.
Oui,
est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on a un talent comme le vôtre ?
Ah non, pas du tout, c'est juste c'était un plaisir. Moi, j'écrivais et je dessinais dans les marges, et à chaque fois que je bloquais sur l'écriture dans les textes, je me mettais à dessiner des personnages. Mm-hmm. Mais c'était pas, voilà, j'ai fait une année d'école de dessin, j'étais très mauvaise, j'avais 4 sur 20. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, persistons dans cette voie.
C'est les profs qui étaient mauvais.
Non, j'espère que vos profs ont eu entre les mains les Brumes de Sapa, édition Delcourt. Vous partez, quand on part loin comme ça, on est toujours un peu privilégié de pouvoir finalement aussi se payer le billet d'avion jusque là-bas, dans une famille.
J'ai bossé, hein.
Oui, ah oui, c'est
dans
vrai.
Dans un resto, bah oui.
Ah voilà, bon, quand même. Alors, vous partez, on va dire privilégié par rapport à cette petite fille que vous croisez. Vous tombez sur une gamine hyper mature, super structurée, tout ce qu'à l'époque vous pensez ne pas être en allant là-bas. Et surtout, parce qu'elle n'a pas le choix, c'est un peu votre double inversé, cette petite fille que vous croisez alors au Vietnam.
Bah, c'est toutes les réflexions que je me fais aujourd'hui avec le recul de 14 ans d'amitié et cette BD surtout. Mm-hmm. Mais sur le moment, je me disais pas ça. J'étais juste bouleversée par le regard qu'elle portait sur le monde dans lequel elle vivait, qui était en grand chamboulement. La société vietnamienne qui était balayée par la consommation, le capitalisme. Et elle était d'une société très traditionnelle, faisant partie des minorités. Donc c'est ça qui m'a touchée, en fait, de voir qu'elle était au point de basculement. Et effectivement, qu'elle n'avait pas la liberté que moi j'avais, ne serait-ce que de me poser toutes ces questions sur mon avenir.
Et vous, faisant le chemin inverse, allant d'une société très occidentalisée, dans une recherche qui était une forme d'épure, de mise en danger, d'authenticité
C'était pas aussi glorieux, je cherchais pas à retrouver... En fait, j'étais obsédée par les pays qui avaient connu des guerres. Et donc, j'avais besoin d'aller à Auschwitz, au Vietnam, à Hiroshima...
Dans le Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, ouais, exactement. Et voilà, et donc j'allais chercher à comprendre quelque chose. Et donc c'était une lubie, en fait.
Et là, ça va mieux. Donc le prochain album, c'est Acapulco.
C'est en Syrie.
Non, continue.
Alors, il est aussi construit de façon très cinématographique. C'est pas un hasard. Est-ce que vous avez fait des études pour ça? Est-ce qu'il y a un chemin
J'ai fait des études, ouais, de cinéma. Mais et surtout, c'est un réflexe de découpage, en fait. Je me suis pas. Enfin, comme j'ai fait cette BD que à l'instinct.
Ah,
en ne sachant rien faire, j'ai juste vraiment, j'ai fait comme j'aimerais le voir, en fait. Donc mm-hmm. Je me disais, je ne sais pas dessiner les immeubles, la perspective, l'anatomie. À chaque fois, je me disais, c'est moche, mais c'est cohérent. Peut-être que j'arrive à faire passer mon message quand même.
C'est comme ça qu'on crée un style. Vous n'êtes pas formaté, donc il y a quelque chose de neuf. Ou...
Oui.
Juliette Arnaud, vous confirmez
La découpe des plans, par exemple, quand vous commencez par quelques gouttes de pluie qui tombent, et puis tout à coup. Un plan super panoramique, on voit la grande montagne avant d'arriver à Sapa. Elle est incroyable, toute cette scène. On a vraiment l'impression d'être sur la moto avec vous. Et c'est effectivement pas grâce à la technique, parce qu'elle n'est pas dingue. Mais en revanche, la découpe...
Parce qu'en fait, je viens plus de là, de l'image. Et je voulais faire ça, en fait, à la base. Je voulais faire des films. Et donc, quand je me suis attelée à ce travail-là, ce qui est venu, c'était de l'instant, c'était du storyboard de cinéma, finalement. Et je voulais le rythme et j'ai passé... C'est pour ça que j'ai mis 5 ans à faire cette BD. C'est vraiment... Je me répétais les scènes en boucle pour trouver le rythme, pour laisser passer, instaurer le temps qui passe. Ça se passe sur 10 ans, cet album. Donc, c'était très important pour moi, le découpage.
Si vous mettez 5 ans pour réaliser cette BD, qui est très bien fournie, il faut le dire. Hein, c'est pas, elle est quand même épaisse aussi.
Il y a du petit trait, ouais.
C'est vrai, en plus. Quand vous mettez 5 ans pour faire une bande dessinée, combien de temps vous mettez pour changer une ampoule?
Vraiment, mais je ne sais pas changer une ampoule.
Ah bon, je demande encore.
Chapeau.
Ça vous fait un point comme avec Visoreg. Lolita Séchant est avec nous.
Et avec Claude François.
Lolita Séchant est avec nous. Elle publie Les Brumes de Sapa, un très bel album aux éditions Delcourt. Juliette Arnaud nous en parle.
comes the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling.
Velvet Underground sur France Inter à 17h20 en compagnie de Lolita Séchant qui publie Les Brumes de Sapa aux éditions Delcourt. Et il y a Guillaume Meurice, il lui a demandé de le dédicacer.
Non, c'est pas vrai.
Il est tout rouge.
Il est amoureux.
Il est tout rouge.
Oh, j'ai des copines qui vont être jalouses.
Heureusement qu'on n'est pas à l'antenne.
C'est pas toujours bon signe quand elle veut refiler ses copines. Alors, nous avons Thomas VDB et Juliette Tardot qui se moquent.
Alors, on n'a pas entendu qui y avait.
Thomas VDB, Juliette Tardot et Guillaume Meurice.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Parce que vous avez parlé dessus, donc après, on n'entend pas.
Excusez-moi.
Voilà.
J'ai jamais fait de radio.
Ah, c'est ce que je veux dire. Je vous apprends. Et prenez une leçon parce que vous n'avez jamais fait de blague non plus. Ah. Et là, je peux vous dire, c'est du lourd. C'est parti.
C'est une honte de traiter les gens en ne faisant jamais appel à leur intelligence. Donc, c'est
le journal de presque 17h17.
Voilà ce qui nous intéresse.
Et on commence par les titres.
Affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen a refusé une convocation policière.
Marine, on soutient plus la police, qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce soir aussi aura lieu la cérémonie des Césars à la salle Pleyel. C'est la 42e édition et on espère que Jérôme Commandeur, qui va la présenter, saura lui mettre un petit coup de jeune.
Oui, quand on dit coup de jeune, on ne salue pas Roman Polanski.
Il y aura des brèves?
Oui, je suis désolé de vous décevoir, il y en aura.
Dans l'affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen a refusé de se présenter à une convocation policière.
Quoi, elle a peur? Dans la police, il y en a tellement qui votent FN, ce serait sorti un meeting.
Oui, justement, une fémène a été expulsée sans ménagement d'une conférence de Marine Le Pen.
Oui, Marine Le Pen, elle est aussi féministe que son père est passionné de zouk.
Ouais, en même temps, voir des seins nus, bah, ça lui rappelle des mauvais souvenirs.
Hein. Oui, ça lui rappelle sa mère en couverture de lit.
Emmanuel Macron a dévoilé son programme économique et s'est présenté comme le candidat du travail.
Chapeau Manu, il n'est pas tombé dans le piège de se présenté comme le candidat du chômage. C'était le piège.
Hier soir, Jean-Luc Mélenchon était sur France 2 dans l'émission politique.
Oui, et face à lui, notamment Valérie Pécresse. Elle a parlé d'éducation et c'est vrai que c'est important, l'école, par exemple, pour apprendre à accorder les adjectifs.
Dans ces écoles-là, c'est très difficile d'enseigner. Qu'est-ce que vous allez faire ? pour réattirer vers les métiers de l'enseignement qui sont tellement cruciaux pour l'avenir de nos jeunes.
Ah, bim, le piège. Les métiers sont cruciaux, pas de chance.
Jean Lassalle.
Le fabuleux Jean Lassalle.
Alors, le fabuleux Jean Lassalle l'assure, il a recueilli ses 500 signatures.
Alors, on ne sait pas s'il s'agit de signatures de maire ou d'empreintes de sabots de bouquetin des Pyrénées, mais bravo mon jaloux.
Justement, c'est demain que débute le salon de l'agriculture et c'est un grand moment pour tous les agriculteurs.
Et pour les zoophiles, ils appellent ça leur salon de l'érotisme.
En tout cas, c'est l'occasion de voir tout un tas de bêtes de foire.
Oui, parce que bien sûr, tous les candidats à la présidentielle vont s'y rendre.
Et autre cérémonie ce soir, George Clooney recevra un César d'honneur.
Oui, c'est beaucoup pour une série de pubs de capsules à café, mais c'est bien quand même, on l'aime bien.
International à présent, Donald Trump envisage de renforcer l'arsenal nucléaire américain.
Voilà. Bonne fin du monde à tous. Heureux de vous avoir rencontré.
Économie ?
Oui, Jean-Yves Curcial, ce matin, notre spécialiste économie, était un petit peu enrhumé sur France Info.
Je vous rappelle, le CAC 40, il redescend à 4877 points.
Et prenez soin de vous, Jean-Yves Curcial, à la Bourse de Paris.
Putain.
Il n'est pas content d'être enrhumé, il a surpris Marie Bernard.
Média à présent, hier, c'est au micro de Marc-Olivier Fogiel que Jean-Pierre Elkabbach a parlé pour la première fois depuis son licenciement. Brutal, hein, brutal, d'Europe 1.
Et il y avait une belle émotion.
Oui, l'information m'a manqué, et je me dis de temps en temps, peut-être que je lui ai manqué.
Envie de chialer, 10 minutes d'interview, il a parlé de son arrivée sur CNews, successeur d'ITélé, chaîne où il y aura PPDA, Rachid Arab, Jean-Marc Morandini, entre autres, et il dit ça.
Moi, je peux dire que nous serons plusieurs les symboles de la renaissance et de l'indépendance.
Ah, première bonne vanne en tout cas de notre ami Jean-Pierre Elkabbach.
Ah putain, on est tranquille. Allez, des brèves.
Pour augmenter la qualité de vie des salariés, un homme politique suédois propose de consacrer un temps de sa journée de travail au sexe. Bon alors évidemment, pour ceux qui travaillent dans le porno, ce sera toujours la pause clope. Mais
vous avez droit à une dernière.
Allez, la dernière. Haute-Pyrénées, elle découvre que sa place au cimetière est déjà occupée. Hein, si ça sert à rien d'engueuler l'occupante. Mais c'est chez moi.
Lolita Séchant est avec nous. Qui publie une très jolie BD, Les Brumes de Sapa, aux éditions Delcourt. Juliette Arnaud va nous en parler tout à l'heure. Il y aura aussi Thomas VDB, bien sûr, on va aborder ce premier sujet. Jadot ne sera pas président de la République. Voilà.
Wow.
Il a annoncé son ralliement hier soir derrière Benoît Hamon.
Vous voyez, j'ai lu que si les militants écolos le refusaient, il était obligé d'y aller quand même seul.
Ah mince.
Bonne ambiance.
Ouais.
Enfin, là, vous voyez ce que ça signifie. C'est que, attention, parce que l'écologie vient de se ranger derrière le socialisme.
Oh là là. Ah, ouais.
La forêt exige un sacrifice.
Un sacrifice? Vous êtes vraiment sûr?
Enfin, je croyais que ça se faisait plus depuis longtemps, ces trucs-là, moi.
Si, une bestiole ou deux de temps en temps, à la pleine lune, ça marque le coup.
Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait au juste à sacrifier? Un bouc?
Ah non. Là, c'est un cas de force majeure. Il me faut un être humain.
Mais quoi comme être humain? Peu importe.
Bah, quelque chose de sérieux, c'est sûr. Si vous me refilez le pecno du coin à moitié moisi, ça passera pas.
Cet extrait de Kaamelott, dont on ne sait pas quand ils l'ont écrit ce matin, peut-être, on ne sait pas. Lolita Séchant, est-ce que vous vous considérez comme écolo?
Ah, plus que tout, oui.
Plus
depuis
que
toujours,
tout
en fait.
Ah, c'est
vraiment,
vrai.
Ça a été mon éducation, vraiment tout part de là. Et je pense d'ailleurs que ça rejoint le socialisme. Je veux dire, quand on s'occupe d'écologie, on s'occupe de tout, du vivre ensemble, de consommation intelligente, du travail.
Et de l'humain, donc.
Voilà. Ouais.
Alors, vous qui êtes écolo, donc, comment est-ce que vous vivez cette décision de celui qui était donc peut-être destiné à être votre candidat, Yannick Jadot?
Bah moi je trouve ça très bien et j'aimerais bien que Mélenchon rejoigne aussi. Il y a un moment où il faut.
Il y a un appel. Est-ce qu'on peut faire un appel solennel? C'est la mode en ce moment.
Bah oui, mais enfin, il faut faire quelque chose. Mm-hmm. Vraiment.
Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire hier? On a vu Yannick Jadot s'adresser à Jean-Luc Mélenchon aux 20h. Si vous aviez Jean-Luc Mélenchon là, vous auriez envie de le secouer comme un prunier pour qu'il y ait une alliance?
Bah là, moi, je sais pas parler aux politiciens du tout. C'est vraiment un métier, voilà. Donc, je
vous
sais pas si je serais hyper candide, en fait. Oui, voilà, j'en
ferais
peut-être un dessin. Non, mais il y a un moment où faut, quand on a tous un peu les mêmes idées, il y a un moment où faut se bouger et qu'on va pas se retrouver avec un second tour comme en 2002. C'est hors de question. Donc, voilà.
Est-ce que Benoît Hamon, qui a quand même beaucoup de préoccupation écologiste. Et ça, ça a été un des premiers à parler de perturbateurs endocriniens à l'époque où il l'a fait, il y a à peu près un mois ou deux. On se moquait presque de lui. On disait quoi des... Et puis on a vu cette étude qui est sortie hier avec les mèches de cheveux des écolos, etc. Finalement, est-ce qu'avec le ralliement de Jadot aussi, on peut considérer un peu que Benoît Hamon, c'est un candidat écolo et que ça peut vous convenir?
Bah, moi, j'ai écouté ce qu'il avait fait là. Enfin, j'avais écouté par France Inter. Je sais plus, ce que je regarde plus la télé, donc, mais il avait eu une émission où il parlait longtemps et j'avais été assez convaincue justement sur tout son ses points de vue écolo. Je trouvais que c'est enfin, il disait voilà, nous on élève des enfants sur une planète, là on vient de voir qu'on découvre des planètes à je sais pas combien de milliers d'années-lumière.
C'est nous qu'on a trouvé.
Voilà, c'est vrai. Bah, en attendant, on est la seule où il y a vraiment une trace de vie, une civilisation. On va pas détruire tout ça, c'est impensable, c'est inconscient.
Est-ce qu'on peut croire les promesses d'un socialiste? C'est là quand même la question qui se pose. Parce qu'on l'a fait à une époque, je me souviens, on l'a fait et ça n'avait pas trop marché.
Mais c'est obligé que ça aille dans ce sens-là? Ça ne peut pas être l'inverse?
C'est-à-dire,
Jadot président? Ça ne peut pas Hamon qui dit, eh ben, puisque c'est comme ça, ouh, je vais avec Mélenchon.
Ça peut, tout est possible, mais on est assez pessimiste. On ne va pas se mentir, Juliette Arnaud. Voilà.
Alors que je pense qu'on peut, dire aux auditeurs que vous avez presque, ici autour de cette table, tenté une alliance, parce qu'on s'est retrouvés en revenant d'Angoulême, tiens, puisqu'on parle de BD,
oui,
avec Lolita Séchant. On est revenu d'Angoulême dans la même voiture, dans le même train que Yannick Jadot
à l'étage du dessus
et Mélenchon à l'étage du dessous.
On a tout tenté. On a vidé le minibar du TGV. C'est peut-être même à cause de nous que ça a foiré. On peut peut-être l'avouer maintenant.
Alors maintenant qu'on en parle.
Lolita Séchant, dernière question. Jean-Vincent Placé rangé derrière Benoît Hamon, une réaction?
Voilà, Joker.
Est-ce que vous avez déjà croisé un gars qui a voté Jean-Vincent Placé? Moi, j'en cherche.
Je croise de moins en moins de gens qui votent.
Mais nominativement, quoi, pas tel soliste. Nominativement.
Mais il était sénateur, donc c'est forcément des
gens
qui sont
déjà
élus.
Ils n'ont pas voté lui.
Ouais,
j'en cherche.
Et bien, on lance un appel. Voilà. Si un jour vous avez voté par erreur, par accident, vous étiez sous.
Capturez-le.
Amenez-le-nous, on l'invite pendant une heure. Libre antenne.
Lolita Séchant, à côté de vous, il y a un individu qui s'appelle Thomas VDB. Ah,
c'est le nom de cette personne qui est à côté d'elle, effectivement.
Qu'est-ce que vous nous proposez, Thomas VDB?
Eh bien, voilà. Donc, la nouvelle est tombée récemment sur nos prompteurs. Et donc, hélas, on n'a rien pu faire. Pascal Obispo est en train de préparer une comédie musicale sur Jésus. Il est venu le temps de Jésus. Voilà, très bien cette chanson.
Un petit côté Macron, en fait.
Un petit peu, ouais, c'est vrai. Alors moi, à la base, bon, faut que je dise, Pascal Obispo, c'est pas quelqu'un qui compte énormément dans le champ de mes passions musicales. Je pense que si c'était un aliment, ce serait peut-être du pain de mie. C'est-à-dire que j'y suis pas complètement opposé, mais je peux très bien faire sans. Voilà, et donc apparemment, Pascal Obispo, il a une sorte d'épiphanie dans son sommeil. Il a une voix qui lui a dit « Pascal, il y a moyen de se faire un max de thunes ». Et là, voilà, du coup, l'intégralité des recettes qui devaient être reversées à la paroisse, bah, finalement, il y a eu un micmac, voilà, et toutes les recettes seront finalement reversées à Pascal Obispo. C'est-à-dire que Jésus transformait l'eau en vin, Pascal Obispo la transforme en droit d'auteur. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas dit quand même à l'avance que ça va marcher. Ouais, il faut savoir que quand une comédie musicale, ça se plante, en général, ils laissent beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est programmé pour l'année prochaine, mais il est encore temps d'annuler. Voilà, je le dis quand même, rien ne nous dit que Pascal Obispo, il va pas changer d'avis finalement, et puis se dire que voilà, finalement, c'est pas une bonne idée, une sorte d'Emmanuel Macron de la variété française. Alors donc, voilà, il y a encore des personnages connus qui n'avaient pas fait l'objet de comédie musicale. On a vu Quasimodo et Esmeralda, Roméo et Juliette, il y a eu les Trois Mousquetaires, Mozart, Adam et Ève, Moïse. Ils devaient faire Mahomet, ils l'ont annulé pour des raisons de sécurité. Ils ont regardé à un moment, ils voulaient en faire une entièrement sur les Témoins de Jéhovah, ils n'ont pas réussi parce que toutes les scènes devaient se situer sur des paliers, et donc voilà, il y a un problème de mise en scène. Et donc là, Jésus, ils ont décidé de faire une comédie musicale sur Jésus. Alors pour moi, c'est une comédie musicale sur Jésus, ça existait déjà, enfin c'est la messe. Voilà. Bon là, c'est une vraie comédie musicale à la française. Alors ça avait déjà été fait avant, une comédie musicale sur Jésus, c'était Jésus-Christ Superstar aux États-Unis dans les années 70, c'était super. De toute façon, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont de la chance avec les comédies musicales, elles descendent toutes de La Mélodie du Bonheur ou West Side Story. Nous, les comédies musicales, elles descendent de Starmania. Ah, eux, ils ont eu Gershwin, nous, on est obligés d'aller récupérer des Québécois pour faire des comédies musicales ou des opéras rock avec des scènes très inspirées de l'opéra où il y a un mec qui met 2 heures à mourir en déclarant sa flamme à une jouvencelle de 180 kilos. Pourquoi, nous, nos comédies musicales, elles sont pas comme à Broadway? Et d'ailleurs, les Américains, même pour chanter Jésus, ils sont meilleurs. Hein, vous allez dans une messe aux États-Unis, c'est du gospel. Les chansons, c'est du Stevie Wonder avec un prêtre qui crie « You love Jesus !» Et les gens sont là « We love Jesus !» C'est la fête. Que nous, dès qu'il y a une chanson sur Jésus, tout de suite, on fait penser à « Jésus revient ». Jésus revient parmi les siens. Alors, est-ce qu'on apprécierait mieux la comédie musicale sur Jésus aussi si on est croyant? Alors, ça dépend de ce en quoi on croit. Parce que moi, je ne crois pas en Jésus, mais je crois encore moins en Pascal Obispo. Alors, et d'ailleurs, c'est fou si on regarde, parce que un des derniers albums de Kanye West s'appelait Jesus. Il y a une chanson sur Jésus de George Harrison qui s'appelle My Sweet Lord, qui est une chanson sur Jésus. Tu te mets à la place de Jésus. Il doit être flatté quand même qu'il y ait des artistes, pareil, qui lui consacrent des morceaux ou des disques entiers. Comment il va réagir, Jésus, quand on va lui dire « Pascal Obispo, c'est une comédie musicale sur toi. » Il va « sympa. Voilà, » Alors, en tout cas, voilà, je pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on a besoin de nouvelles chansons sur Jésus? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a déjà assez de chansons sur Jésus. Je pense à « Plus près de toi, mon Dieu ». Je pense à « Je viens vers toi, Jésus », qui est quand même un des classiques. Je pense à « J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus ». C'est là aussi qui est un classique. Il y a des milliers de chansons sur Jésus. Je crois qu'on a atteint le compte. Il y en a assez. Toute la musique qui a été faite, même entre le 12e et le 19e siècle, c'est quasiment que de la musique qui parle tout le temps de Jésus. Est-ce que c'est la peine de faire une comédie musicale entièrement sur Jésus, de se casser la tête, organiser un casting de gars pour les apôtres? Bon, est-ce que c'est la peine? Est-ce que c'est la peine de faire encore des comédies musicales? C'est pas. Franchement, il y en a assez. Est-ce que c'est encore la peine d'en faire des nouvelles formes? Pour tout vous dire, je me demande même si on n'est pas arrivé à un nombre d'albums suffisant de Pascal Obispo. Franchement, j'ai compté, il y en a 14 qui sont sortis dans sa vie. Voilà, on pourrait décider que voilà, ben, dans sa vie, Pascal Obispo aurait sorti un nombre d'albums qui correspondrait à 14. C'est plus la peine d'en faire, Tom. On a compris, oui, c'est du Pascal Obispo, on connaît, merci. Il est venu le temps de s'arrêter de faire des nouveaux albums. Okay, ok. Merci les amis.
Merci Thomas VDB.
Et si Pascal Obispo veut savoir où se trouve Thomas VDB les vendredis et samedis soirs, c'est au Sentier des Halles.
Absolument.
Pour son spectacle.
Allez, avec Lolita Séchant qui est avec nous jusqu'à 18h, on vous propose une séance de purification musicale immédiate.
Ne me change pas, ne me change pas, laisse-moi chanter, on ne transforme pas, l'acier en étain. L'acier en est un. Tourne, 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 tourne. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain,
changer quand même, madame, ça vous dérange pas.
Miss Sparrow. Mais vous pouvez pas dire ça, c'est la playlist France Inter.
Oui, non, mais je l'ai pas dit d'ailleurs. Non,
qu'est-ce que vous avez dit pendant la chanson? Hein? Ils ont fait tout. Il alors, moi, je vais le dire, attendez, je vais le dire à l'auditeur. Ils ont fait tout un sketch pendant la chanson sur vas-y, mets-moi un peu plus de réverb, nanana. Non, mais allez, dites-le.
Le producteur, il passe dans le studio et il dit ça. France Inter, ils vont le prendre, ça. Voilà. Ça, je le sens.
Voilà, bravo. Ah bah, Lolita Séchant, voyez où vous êtes tombée. Merci d'être venue. Heureusement que vous êtes là.
Quand vous allez faire la promo sur RTL Europe 1, on n'entendrait pas.
Ils vont pas m'inviter. Ah ouais. Je suis très France Inter.
Et c'est pour ça que c'est bien. Et
oui. Les Brumes de Sapa, c'est votre bande dessinée aux éditions Delcourt. Et Juliette Arnaud va la chroniquer tout à l'heure. En attendant, il faut passer.
Ah oui, je suis désolé.
Ouais, c'est un petit peu comme le Dodane. C'est comme s'il y avait un Dodane sur l'autoroute.
C'est moi, voilà. Et c'est en ce moment la grande braderie du fonctionnaire, le saviez-vous? Tout doit disparaître. Macron a proposé d'en supprimer 120 000 hier. Fillon, c'était carrément 500 000. Au nom, bien sûr, de l'efficacité. Hein, on le sait, Fillon, les gens payés à rien foutre, ils détestent ça. Hashtag lol. Hashtag si le foutage de gueule avait un visage, il aurait des gros sourcils. Mais bon, ceci dit, si les politiques le proposent, c'est que ça fait son petit effet dans l'opinion publique. Et l'opinion publique, moi, j'aime bien lui poser des questions. Voilà, alors je suis allé la voir ce matin, l'opinion publique, et j'ai d'abord rencontré une dame qui soutient Fillon mordicus, mais qui n'était pas au courant qu'il voulait virer les fonctionnaires. Et quand je lui ai appris le truc, ah bah, elle était pas contente, la dame.
Et pourquoi? Mais je comprends pas qu'il veut enlever des fonctionnaires. On en a besoin, non, d'un chien?
Bah oui, mais c'est dans son programme.
Eh ben alors, bah écoutez, je sais pas, alors...
Bah vous allez voter pour lui quand même, du coup?
Oui.
Ah oui, quand même?
Oui, quand même, bien sûr. C'est mon ami, c'est mon copain.
Ah, c'est votre copain, mais du coup, il veut quand même virer beaucoup, beaucoup...
Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous êtes drôle.
Ça vous rend triste quand même, j'ai l'impression.
Ben oui, bien sûr.
Non, mignonne. Elle n'était pas au courant, quoi. C'est comme si elle était fan de Bakounine et puis qu'elle voulait voter Macron, quoi. Elle n'a pas bien lu le programme, quoi. Du coup, je ne lui ai pas dit, hein, pour Pénélope. Non, j'ai mon brevet de premier secours, mais bon, il ne faut pas abuser. Je n'étais pas prêt pour le bouche à bouche. Enfin, on ne saura jamais, parce que j'ai continué, on ne saura jamais qu'elle n'était pas au courant. J'ai continué avec une autre dame qui soutenait Fillon aussi. Est-ce qu'elle, elle aime les fonctionnaires?
Pas du tout.
Ouh là là, vous les aimez pas?
Ils ont rien à foutre de nous. Non, je suis
ça vous agace?
Ça m'agace. C'est d'accord avec Fillon et ceux qui vont les virer.
Oui, parce que Macron aussi veut les virer maintenant.
Eh ben, il a raison. Mais lui, c'est un copieur.
Ah. Macron aurait des idées de droite. La vache, on en apprend des trucs aujourd'hui. C'est fou, hein, le moment Meurice, premier sur l'info. Bon, alors elle déteste, hein, elle déteste les fonctionnaires. Mais imaginons un truc que son fils lui ait dit « Maman, plus tard, je voudrais être fonctionnaire ».
Mais c'est pas possible, il n'y a pas de fonctionnaire chez nous, ça c'est inné, c'est le truc qu'on fait de génération en génération. Chez nous, on bosse et on travaille.
Ah oui, il y a des générations de fonctionnaires?
Oui, il y a des générations.
Mais si vous avez dit quand même, maman, je veux faire fonctionnaire dans une mairie?
Eh bien, je lui aurais dit, t'es un imbécile.
Et on salue toutes les mamans de fonctionnaires de mairie qui nous écoutent, hein, certainement avec leur crétin de gosse, qui sera peut-être bientôt du coup au chômage, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 3 millions de chômeurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de supprimer des postes encore? Continuons avec la dame.
Mais non, ils iront faire autre chose.
Ah, qu'est-ce qu'ils feront?
Ben, ils feront rien comme ils font rien, là. Ils sont payés à rien faire, certains.
Ah, ben, du coup, là, ils vont être au chômage et ils vont être payés à rien faire?
Oui, c'est encore nous qui allons les payer.
Bah, du coup, ça change rien, non?
Allez, ne me racontez pas d'histoire.
Non, bah, je cherche la logique, c'est tout, et c'est pas simple. Supprimer le chômage en créant des chômeurs, c'est à peu près aussi con que de penser gagner une élection avec François Bayrou. Enfin, disons que c'est des gens qui aiment bien se mettre des handicaps, quoi, on va dire. Alors, une autre dame avait peut-être eu vent d'une autre solution pour supprimer les fonctionnaires.
J'ai entendu ce matin qu'ils pouvaient mettre certains retraités à la place de fonctionnaires.
Hein? Ah bon?
Oui, vous n'avez pas entendu ça?
Non, j'ai pas entendu.
Et mais si, ils l'ont dit ce matin à la radio.
Mais alors si les fonctionnaires, ils faisaient déjà rien?
Ben voilà, s'il n'y a rien à faire.
Non, les retraités, non. Ils seront payés quand même?
Ben bien sûr.
Ouais, donc ça change rien du tout en fait, hein, cette histoire. Alors l'intérêt, c'est quand même que si tu te fais contrôler par un flic qui a 73 ans, le temps qu'il sorte sa matraque, t'as le temps d'enfiler un slip en plomb, c'est quand même toujours pratique. Mais sinon, je vois pas bien quand même la logique. Alors la logique de ce monsieur est beaucoup plus claire. Hein.
On a 5 millions de fonctionnaires. On en a besoin de deux.
Ah oui?
Voilà.
Selon
après,
quel calcul?
Après, c'est du superflu.
C'est vous qui avez fait les calculs ou c'est...
Bon, c'est ce que je pense.
Donc vous êtes pour la suppression de 3 millions de fonctionnaires.
Après, si vous voulez, quand vous avez des points morts dans une société, il faut se poser la question de savoir si la société doit assumer ses poids morts.
Et on salue hein, les poids morts qui nous écoutent dans les hôpitaux, les écoles, les casernes de pompiers. Des poids morts qu'on est quand même bien content d'appeler hein, quand on se fait renverser dans la rue par un scooter Pizza Hut conduit par un poids vivant. Hein, donc, allez, concluons avec le souhait d'un dernier représentant de l'opinion publique pour le poste de président.
Mettez un chef d'entreprise à la place et vous verrez, ça ira beaucoup mieux.
Mais est-ce qu'on peut gérer un pays comme une entreprise?
Oui.
Ah, vous pensez?
Bah, bien sûr. Parce qu'il y a un budget, il y a des rentrées, il y a des sorties.
Mais une entreprise, son but, c'est de faire des bénéfices.
C'est normal, parce qu'il y a une rémunération qui doit être faite aux capitalistes.
Oui, mais un pays, est-ce que c'est ça, vraiment?
Mais non.
Ah bah, donc non, du coup. Vous m'avez dit oui, c'est pour ça?
Non.
Oui, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair. Alors, ce qui est clair, par contre, c'est qu'à coup d'éditos, d'articles, d'émissions, de reportages, le système capitaliste a quand même réussi le pari fou de privatiser l'opinion publique.
Merci Guillaume Meurice, reporter sur Radio Point Mort. Nous sommes en compagnie de Lolita Séchant jusqu'à 18h. Et voici ce deuxième sujet qu'on vous soumet avec Juliette Arnault, Alex Vizorek et Thomas VDB.
On est là, on est là.
Thomas VDB, je sens que c'est un sujet qui va vous...
J'en suis sûr.
Oh, mais il va vous soulever.
J'avais hâte de venir aujourd'hui pour qu'on en parle.
Pour celui-là, je savais. Un rapport parlementaire propose que la société civile ait son mot à dire sur les programmes scolaires. Ça veut dire les employeurs, les poids morts peut-être aussi, et le MEDEF qui regrette que l'école ne parle pas assez du monde de l'entreprise. Hein, alors vous imaginez, le monde académique et le monde des marchés, c'est sûr que ça va bien se passer cette histoire. Hein. Tiens, est-ce que vous voulez un aperçu du résultat?
Mon chéri, si t'as bossé comme un ouf, pourquoi t'as eu une si mauvaise note?
Mais les profs sont fermés à triple tour. Dès que tu dis une idée un peu nouvelle, là, ils supportent pas.
Ils ont pas aimé la façon dont t'as rédigé ton exposé.
Ah si, au début, ça allait. Enfin, le siège de Berlin par l'armée soviétique, ouais. Hitler et ses lieutenants dans son bunker, ouais. Le mariage avec Eva Braun. Mmh. Non, c'est quand j'ai parlé de sa fuite en Amérique du Sud.
Hitler est mort dans son bunker en 45. Oui.
Ah non, vous allez pas vous y mettre. Open mind, s'il vous plaît. Vous savez pas qu'il a fui Berlin par des tunnels, qu'il a été récupéré par Eisenhower, qu'il a ensuite envoyé en Argentine ou qu'il a vécu très vieux. Enfin.
Ah, si, ça me revient. Sur une île paradisiaque, avec Elvis Presley.
Ah
aussi.
Oui, puis ouais, ouais. Un bateau avec Dark Vador.
Oui, l'échec.
Voilà.
Un extrait de la série de France 2, fais pas ci, fais pas ça. Alors, Lolita Séchant, que les syndicats, les entreprises, les associations de consommateurs s'impliquent dans la réalisation des programmes scolaires, au-delà du sacré bordel que ça nous promet. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée, vous? Est-ce que l'école, elle parle pas assez de l'entreprise? Est-ce que vous êtes soucieuse que votre enfant, il apprenne le monde de l'entreprise à l'école?
Je n'arrive même pas à imaginer ce que ça donnerait. Je comprends même pas pourquoi une entreprise aurait un rapport avec l'éducation. Mm-hmm. Et au contraire, enfin sinon ça va encore plus mettre des gens à part, j'imagine, et stigmatiser. Non, moi je suis à l'immédiat. Ouais, je ne se refais pas.
Vous avez eu une éducation à l'école qui utilise la méthode Montessori, c'est ça?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir accès à cette méthode-là. Ouais.
Et alors, racontez-nous un peu, parce que moi j'en connais peu.
Les défauts de cette méthode, c'est que c'est des écoles privées, donc chères. Mm-hmm. Les qualités, c'est qu'en fait, les enfants sont mélangés selon les âges. Donc déjà, il n'y a pas de scission entre les tout-petits et les grands, donc ça aide à aller vers l'autre. Les grands aident les petits. Ensuite, ça pousse les enfants à prendre des initiatives, à être plus autonomes, parce que ça a été prouvé que vraiment l'enfant est une boule de volonté pour apprendre et qu'il n'y a pas besoin de le forcer. En fait, il va vers ça naturellement, même, chimiquement, il est constitué pour apprendre et emmagasiner de nouvelles infos. Donc,
résultat, à 20 ans, on ne sait pas quoi faire de sa vie.
Et je ne sais rien faire.
Oui, donc en fait, c'est une méthode qui pourrait s'appliquer au public dans le fond.
Mais il y a une femme qui a essayé de faire ça, Céline Alvarez, qui a appliqué ça pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans, dans un lycée de ZEP, et ça a eu des résultats incroyables. Tous les enfants savaient lire quasiment en maternelle, et surtout les enfants étaient heureux. Les mères venaient la voir en lui disant. Alors qu'au début, elle la regarde avec un regard méfiant en lui disant « c'est quoi cette méthode de bobo ?» Les mères, à la fin, venaient en disant « merci, mon enfant est heureux d'aller à l'école ». Donc si déjà on appliquait ça, un minimum donner confiance aux enfants dès le premier âge. Après, les entreprises, je ne vois pas trop
ce qu'elles peuvent mettre là-dedans. Non plus, hein, je pense.
Non,
que...
moi je suis complètement d'accord avec Lolita Séchant.
Pourquoi je m'en doutais?
Je ferais le dessin.
Bon, écoutez, si tout le monde est d'accord, on va passer à la chronique de Juliette Arnault.
Oui,
sur l'ouvrage de Lolita.
Oui, alors, oui, parce qu'en fait, moi j'ai lu ce roman graphique. Ah, on dit roman graphique, là, on n'en est plus à BD. Alors on dit roman graphique. Dès les premières pages donc, du roman graphique, je me disais, je sens qu'il va y avoir des bons génies. Et alors j'essaie de trouver, mais alors ils sont écrits en tout petit, parce que vous êtes une femme, hein, vous faites dans la discrétion. Mais quand même, je les ai repérés, ils sont en filigrane.
C'est quoi ce cliché? Si on avait dit ça,
non.
On aurait eu 4 procès déjà.
Non, alors déjà, pas par moi. Et puis fermez-la, Meurice, fermez-la bien.
Ok, c'est un argument qui tient.
Qu'est-ce qu'un bon génie? Alors, il y en a deux. D'abord, en tout petit, en astérix, il y a une petite mention pour Nicolas Bouvier,
qui est le monsieur qui, en 1953, a écrit L'usage du monde, parce qu'il avait fait un voyage mythique en Fiat Topolino avec Thierry Vernet, le dessinateur, de Belgrade à Kaboul. Donc, ils étaient vingtenaires sans argent et ils ont traversé des pays chaotiques ou en passe de l'être, Yougoslavie, Iran, Afghanistan. Ce livre, L'usage du monde, c'est vraiment la Bible des voyageurs, qui débute d'ailleurs avec cette citation de Shakespeare : Je dois partir et vivre, ou rester et mourir. Ça marche aussi pour votre BD. L'autre protecteur de cette BD, ben c'est une femme. C'est la pire et la meilleure, c'est une femme de fiction. Elle est mal aimable, mal embouchée, compliquée, ambivalente, merdique, inspirante, véritable plaie dans le fion pour causer comme nos amis de l'Amérique. J'ai nommé Scarlett O'Hara. Et bien sûr, son célèbre axiome, celui qui enfonce largement celui d'Euclide, selon moi, hein, l'axiome d'Euclide, qui dit que si une droite coupe deux autres droites en déterminant deux angles internes dont la somme soit différente des deux angles droits, alors les deux droites se coupent dans un demi-plan pour lequel la somme est inférieure aux deux angles droits. Axiome qui, sincèrement, dans la vie courante, ne t'apporte pas grand-chose, hein, no offense Euclide. Donc l'axiome de Scarlett O'Hara, lui, te permet toujours de redresser la tête quand les choses sont au plus mal. Demain est un autre jour. Scarlett, ou l'inverse d'une voyageuse, hein, sa loyauté ne va finalement qu'à une seule chose, son bout de terre, Tara. Là, vous allez me dire, c'est un drôle d'attelage, Nicolas Bouvier, Scarlett O'Hara, c'est clairement le mariage de la carpe et du lapin. Et pourtant, ça marche de dingue. Ça met une espèce de lumière, de bon génie sur le roman graphique. Vous voyez la lance des gauches à Mont-Mélenchon ? Eh ben, ça n'a pas compliqué. C'est l'inverse. Là, Les brumes de Sapa, c'est un roman initiatique. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à défaut de savoir ce qu'elle cherche, suppose qu'elle va le trouver au Vietnam. Seule, sac à dos, Imodium et baume du tigre, et en avant, trinquant. Et là, après tout un tas d'aventures typiques de voyageurs, Imodium, again, fantôme, pays chaotique, problème de compréhension, elle arrive à Sapa, 1500 mètres d'altitude, d'où les brumes, le pays des Hmong, minorité traitée comme une minorité. Là, à Sapa, la jeune femme commence à entrevoir la lumière, enfin sa lumière. Sauf que la lumière, c'est pas un prince charmant, loué soit le Seigneur, ni Dieu, loué soit le Seigneur de Rechef, c'est une petite fille, Hmong, nommée Lo Thi Gom. Pour cette petite fille, la jeune femme va partir, mais revenir chaque année, tout là-bas, loin, après des heures d'avion, de train de nuit, de moto, de bus, et leur amitié va croître. Encore une fois, finalement, la carpe et le lapin. La petite fille qui travaille, ne va pas à l'école, n'est pas super protégée par sa famille, native d'un pays pauvre, qui ne connaît que sa paille et ses brumes, et la jeune femme, à peine adulte, avec des tourments plus familiers. Ding dong ! Ça, c'était le bruit annonciateur du fantôme d'un petit prince et d'un renard. Vous savez, ce moment où le renard veut être apprivoisé et met en garde le petit prince, et lui dit « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Pour ceux qui préfèrent la pop culture, c'est le moment Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça, c'est Ben Parker, l'oncle de Peter Parker. Tout ça a l'air lourd ou grave, et ça l'est, mais pas que. C'est inspirant, c'est tonique, c'est comme mettre un baume et pas du tigre sur des vieilles plaies moyennement refermées, pas si oubliées. C'est comme ce choix du noir et blanc que vous faites, Lolita, dans votre roman. On pourrait se dire que c'est dommage du noir et blanc pour une histoire dont l'action se déroule principalement au Vietnam. Eh bien, moi, je pense que le noir et blanc, c'est comme pour nous laisser à nous la place d'y mettre nos couleurs à nous, personnelles et intérieures. Plus le livre, finalement, se révèle personnel, plus l'identification réussit. Comme si l'auteur nous laissait une place. Alors je vous le dis le plus sincèrement du monde, Lolita, merci, bisous, merci.
Merci. Juliette Arnault.
Ah, c'est en fait le noir et blanc, c'est parce qu'elle ne sait pas mettre les couleurs.
C'est beaucoup moins romantique.
L'idée, c'est que vous avez mis 5 ans pour l'écrire en noir et blanc.
Ça a pris 2 ans de plus.
Là, on était parti pour non, c'est trop long. Non.
Lolita Séchant, Les brumes de Sapa, paru aux éditions Delcourt. Et vous pouvez désormais réécouter Juliette Arnault en podcast.
C'est pas vrai.
Et aller voir sa page, etc. Oh. Vous pouvez lui écrire, elle va vous répondre.
Et là, elle vient de cracher tout son nom.
Oui, moi je la réécouterai, parce que ça m'a touché.
Vous avez touché Lolita. Alors, troisième sujet.
Entre autres. Essuyez, parce que vous avez bavé partout.
Non, j'ai pas bavé, j'ai craché.
Oui, voilà, c'est ça. Lo Thi Gom, elle va bien, elle a réagi comment, la liaison?
Elle l'a pas lu. Parce que je peux pas lui envoyer. Parce que le courrier n'arrive pas aux minorités.
Ah, mais vous irez lui porter ?
Faut que j'y aille.
D'accord.
Faut que je l'amène.
Très bien. Alors, ce troisième sujet, un tiers des Français ne mangent plus à table.
Ah.
Ils mangent devant la télé, debout, au lit ou en marchant. Donc tout seul, quoi, chacun dans son coin. Et ça, pour le pays de la gastronomie, c'est une révolution. Hein. Enfin, une vieille révolution.
Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table ? C'est gênant.
Point nos bio, il n'a pas de manière pour manger. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle.
Ah, grand merci, Seigneur Hubert.
Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous.
Ça le gestionnerait. Hein, mon jacouille. Tu ne veux pas venir à table avec nous?
Oh, non, Seigneur Huberet.
Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez, ça me coupe l'appétit.
Oh, non, que nenni.
Obéis, Marot.
Non,
je te l'ordonne.
Ça sera plus sympa.
Tout le monde a reconnu
Les Visiteurs.
Merci.
À l'époque où Christian Clavier était rigolo.
Il était pauvre. Voilà. Donc non, on ne l'aura pas dans l'émission.
Moi,
là,
je
ça
le trouve encore rigolo, parce que j'aime tout le monde.
Toi. Donc ça y est, on le récupère dans l'émission, c'est fait. En 2010, le repas quotidien se prenait à table pour 83% des Français. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus que 68%. Quand je vois la tête de Thomas VDB, je me dis ça le passionne.
Non, mais je suis en train d'écouter hyper attentivement, Charline. Qu'est-ce qu'elle a cette tête?
Je sais pas, vous avez votre tête, avec quoi elle vient?
J'écoute.
On vous a appris qu'il fallait manger à table, Thomas.
Bien sûr, mais regarde, moi je me tiens bien, j'écoute poliment. Voilà, le couteau dans la main droite, la fourchette dans la main gauche.
Ouais, exactement. On vous a aussi appris qu'il fallait manger à table. Manger à table, quoi, ou pas? Ah non, vous.
Là, on était sur la table du salon, accroupis par terre comme des Japonais. Non, à manger des pâtes tous les jours avec de la mayonnaise. Donc, je suis pas sûre que je vais manger.
Des pâtes à la mayonnaise?
Ouais. Bah oui, des nouilles à la mayonnaise.
Merde alors.
Et aujourd'hui, quand je mange à table avec ma fille, j'ai l'impression de jouer à la dame, quoi, enfin à la poupée.
Ah voilà, parce que c'est ce qu'explique l'article que j'ai lu dans je ne sais plus quoi, je dois
Slate,
vous dire. Slate.fr, bien sûr, qui explique que c'est quand même un rite dans la construction d'une famille. Donc là, vous vous êtes reprise, quoi.
Zut.
Non mais vous le faites du coup.
J'essaye.
C'est un peu une façon de Montessori de faire à manger. Quoi.
Non, mais essayer de faire tenir un enfant assis, déjà, c'est quand même une prouesse. Oui. Enfin,
Non, mais c'est juste que d'habitude, c'est une pause, quoi. On s'arrête, on mange, quoi. Et là, les gens, ils mangent en marchant parce qu'ils n'ont pas le temps.
Ouais, un peu à l'américaine, à l'anglo-saxonne.
C'est un problème, exactement.
Mais ouais,
il y a la télé aussi. Problème, en fait.
J'imagine, il y a la télé comme souvent les couples mangent.
Il y a même au lit.
Ah, voilà. Ça, dans les appartements parisiens, souvent, c'est une des seules options.
C'est vrai. Donc, alors, moi, j'avais prévu une question qui dirait que c'était peut-être une forme de résistance au mode de vie de dingue, de dire stop, on s'arrête et mince, même dans le boulot, il faut s'arrêter et aller manger à table.
Oui, mais tout à fait. Elle est très bien cette question, Charline Van Oonacker. Je vois complètement ce que j'ai dit avant.
On se demande tous si on a un mode de vie de dingue, en fait, plutôt.
C'est lequel le mode de vie de dingue? C'est de rester coincé à table pendant 2 heures avec la famille, ou bien c'est d'être...
Et en plus, à table, en mangeant, c'est le lieu du débat.
Et moi, je suis d'accord.
On peut s'engueuler.
Oui, sans que chez les Meurice.
Voilà. Alors là, moi, c'était un sport vraiment familial.
Mais on débattait aussi autour de la table du salon avec les pâtes.
Ah oui, ça c'est sûr. Moi, j'étais cobaye. Mon père me posait des questions, il attendait des réponses bizarres, il en faisait des chroniques ou des chansons. C'est vrai que j'ai un peu peur du débat à table.
Alors donc, l'article explique aussi que les Américains mangent debout, accoudés à un plan de travail, etc. Les Espagnols, ils mangent debout au zinc aussi. Non?
Si vous le dites.
Et les Belges, je sais pas.
Comment font les Belges?
Au frites-côtes, on mange effectivement, on prend son paquet de frites et on mange sur un espèce de manche debout.
Le frites-côtes, expliquez ce que
c'est. Ah bah oui, nous on connaît pas.
Les gens du Nord, ils savent. C'est une camionnette. Ah voilà, la mitraillette, expliquez.
Bah moi en Belgique, j'ai mangé que, je crois, à 4h du matin, bourré en sortant de concert. Donc c'est toujours une mitraillette, le sandwich.
On était venus pour se rencontrer.
Mais non, on n'a pas pu faire. Diététicienne, c'était pas un boulot pour vous. J'ai l'impression.
Désolée.
Alors lui, comment il est gaulé? Je suis sûre qu'il mange des mitraillettes.
Alors derrière
vous, de frites.
Il y a un homme avec une guitare qui dit du mal du monde qui l'entoure. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, nous, c'est Frédéric Fromet.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis là en tant que spécialiste capillaire.
Oh, mais...
Je vais vous parler des perturbateurs endocriniens retrouvés dans les cheveux des personnalités écolo. Ah. Et il y a plein de cheveux tout pollués, tout dégueu. Il y a des PCB, Il y a plein de cheveux tout pollués, tout dégueu. Il y a des PCB dans la moustache à Beauvais. C'est crado sur la tête à Jadot. Il y a des parabènes, C'est crado sur la tête à Jadot. C'était bien la peine de bouffer des graines. Pourquoi le tofu quand t'as le cheveu fou? Pourquoi le quinoa quand t'as le cheveu cracra? Pourquoi le boulgour, t'es plein de métaux lourds? Pourquoi les toilettes sèches, t'as vu un peu tes mèches? Pourquoi tout trier, t'es contaminé? Tu sais pas ce que tu rates et t'es plein de phtalates. Pourquoi Isabelle Haute ici est dans la liste? Pourquoi Delphine Bateau, c'est pas la navigatrice. Il y a plein de cheveux tout pollués, tout dégueu. Il y a des résidus, Il y a plein de cheveux tout pollués, tout dégueu. Il y a des résidus chez les barbichus. C'est crado sur la tête à Hulot. Il y a du bisphénol A. C'est crado sur la tête à Hulot. Comme son gel douche ou chou aïa. Ah, elle est belle la frange.
Il faut faire des efforts, il faut faire du sport, faut pas manger salé, faut pas manger sucré, faut boire modérément, fumer non, pendant que l'industrie chimique nous pourrit. T'as des trucs pas nets planqués dans les frisettes, tu as du poison caché dans le chignon, tu as des dioxines jusqu'à la racine, t'en viens à jalouser le crâne de Copé. Et y'a plein de cheveux, tout pollué, tout dégueu, y'a des pesticides, y'a plein de cheveux, tout pollué, tout dégueu, ça ressemble un peu à un homicide, c'est crado sur la tête à placer, pauvre Jean-Vincent, je sais bien qu'on ne l'a pas testé, mais il aurait aimé qu'on le mette en avant. À quoi bon le bio quand on a les labos, pourquoi les éoliennes puisqu'on en a dans les veines, à quoi bon la yourte près d'une autoroute, pourquoi le solaire dans le Finistère, ça n'a rien à voir, mais au moins nous avons en écologie un super champion, nous avons Pierre Rabhi qui prône d'être sobre, en Israël ils ont Pierre Rabhi Jacob. Y'a plein de cheveux tout pollué, tout dégueu, t'as beau les laver, c'est toujours pollué. Y'a plein de cheveux tout pollué, tout dégueu, c'est moins prononcé chez Alain Juppé. C'est crado sur la tête à Toto, il y a de quoi avoir mal aux cheveux. C'est crado comme un mauvais jeu de mots, il y a de quoi crier chauve qui peut. Voilà.
Merci. Bravo. Frédéric Fromet, qui a pas choisi la facilité. Hein. Si on vous coupe une mèche de cheveux, Lolita Séchant, y a, même si vous mangez bio, vous faites attention.
Oui, j'essaye, ouais. Du coup, pour compenser. Si on me coupe une mèche de cheveux, bah là, il y a de la couleur pour cacher mes cheveux blancs.
Oh, vous voyez, Guillaume Meurice, vous devriez, voilà, pour donnez-lui l'adresse. Oh.
Pourquoi
bon.
Ils sont pas bien, mes cheveux blancs? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux blancs?
Ils sont magnifiques. Alors, merci, Lolita Séchant, d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci.
Et je rappelle que vous publiez Les Brumes de Sapa, un très beau roman graphique paru aux éditions Delcourt, qui nous a fait un coup de cœur à tous, et que Guillaume Meurice va dédicacer, c'est vous dire, ouais. Si c'est un label de qualité.
On va aller faire ça.
Merci Thomas VDB, Juliette Arnaud, Alex Vizorek.
Merci.
Et merci à toute l'équipe aussi. Merci à Nathalie Romero, à Irène Menahem, à Sarah Masson qui ont préparé cette émission avec notre stagiaire Margot Siffer. Merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. On va se retrouver lundi avec Claude Brasseur. Tout à fait. Et puis on va laisser le mot de la fin au ralliement de Yannick Jadot et de l'écologie derrière Benoît Hamon.
La forêt exige un sacrifice.
Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait au juste à sacrifier?
Là, c'est un cas de force majeure. Si vous m'enfilez le pecno du coin à moitié moisi, ça passera pas.